Europe 1, il est 7h.
C'est moi qui ai expliqué, au président pour la première fois. Vous savez, la PCR, c'est très simple et tout le monde peut la faire.
C'est moi, le professeur Raoult, questionné pendant 3 heures par les députés de la commission d'enquête sur le Covid, les tests, mais aussi l'hydroxychloroquine qu'il défend plus que jamais. Dans un environnement économique morose, l'usine PSA de Rennes redémarre sur les chapeaux de roue, les salariés sont aux anges.
C'est un cadeau magnifique pour la région. On a la chance que ça repart plein pot. Ça fait du bien parce que ça nous permet de remplir le frigo et de ne pas s'inquiéter pour l'avenir.
Un système de chômage partiel longue durée, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron aux partenaires sociaux jusqu'à 2 ans et avec des conditions avantageuses pour les employeurs. Ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré. L'épidémie inquiète aux États-Unis. Elle frappe désormais les États du Sud, de la Floride au Texas. Les Américains pourraient être interdits d'entrer en Europe. Et puis les touristes vont pouvoir retrouver le monument le plus emblématique de la capitale. La Tour Eiffel rouvre partiellement ce matin. Mais il faudra grimper les 674 marches à pied.
D'habitude, en plein mois de juillet, on est à 23 000 visiteurs. Je pense que pour le premier jour, on sera à 3 000-4 000 visiteurs.
Juste après ce journal, votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h15, l'innovation pour les fêtards. Anis Mbida nous présente des feux d'artifice silencieux, non polluants et réutilisables. 7h20, le monde bouge. L'allemand Volkswagen qui veut racheter Europcar, nous dira Axel de Tarlé. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1. Il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Bellière, Hélène Zélani.
Sa barbe blanche, ses cheveux longs et ses déclarations tranchées font de lui la personnalité médiatique la plus en vue depuis le début de la crise du Covid. Le professeur Raoult a été entendu pendant 3 heures hier par la commission d'enquête de l'Assemblée. Grand défenseur de l'hydroxychloroquine, il a maintenu sa posture seul contre tous, Ève Roger.
Sur l'hydroxychloroquine, Didier Raoult confirme, c'est le meilleur traitement. D'ailleurs, le temps fera le tri, a-t-il dit, entre les études pour et les études contre. Il s'est simplement étonné, un peu flatté d'être à l'origine d'une polémique mondiale.
Je ne connais pas Trump et je ne connais pas Bolton. C'est pas moi qui leur ai dit d'utiliser la chloroquine.
En revanche, c'est bien lui qui a multiplié tout de suite les tests à Marseille. C'était la bonne stratégie et il l'a dit à qui de droit.
C'est moi qui ai expliqué, au président pour la première fois. Vous savez, la PCR, c'est très simple et tout le monde peut la faire.
Alors au député qui lui demande pourquoi il a quitté le conseil scientifique qui aura peut-être besoin de ses conseils, il répond qu'il s'y sentait comme un extraterrestre. Et puis surtout, il accuse violemment l'équipe de Jean-François Delfraissy de conflit d'intérêts avec un laboratoire pharmaceutique.
Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19.
Accusation grave, a souligné le rapporteur Éric Ciotti qui a promis d'y revenir. Mais il a fallu attendre la toute dernière question pour que Didier Raoult s'énerve quand il lui est reproché de ne pas avoir testé l'hydroxychloroquine avec un groupe témoin.
J'étais avant un grand scientifique et je suis resté un grand scientifique après avoir publié ça.
Attaqué à plusieurs reprises, le conseil scientifique que nous avons contacté s'est refusé à tout commentaire.
Vous avez entendu le professeur Raoult. C'est moi qui ai expliqué au président. Il se targue d'avoir conseillé à Emmanuel Macron de rouvrir les écoles. Mais cette influence supposée n'est pas très bien vue dans l'entourage du chef de l'État, Jean-Rémy Baudeau.
Il ne faut pas refaire l'histoire. Didier Raoult n'est pas le conseiller occulte du président. Les mots sont pesés, mais l'agacement palpable. Ce proche d'Emmanuel Macron goûte assez peu les déclarations du scientifique devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Non, il n'influence pas le président, selon lui. Sur les écoles, on le voit le 9 avril. On annonce leur réouverture le 13, mais ça faisait 10 jours qu'on travaillait dessus, justifie ce conseiller du chef de l'État. À l'Élysée, on répète que Raoult est un grand scientifique. On reconnaît que le Marseillais a eu de bonnes intuitions. Mais ça n'est pas Didier Raoult qui a toutes les bonnes idées, tempête ce membre du premier cercle. Le professeur Raoult, personnage emblématique de la crise du Covid. Mais Emmanuel Macron a-t-il bien fait d'aller le voir à Marseille? Ne lui a-t-il pas donné trop de crédit? À cette question, la réponse est mesurée. Raoult est un phénomène social. Et ce conseiller de conclure, il dit quelque chose du pays. Il fallait le traiter ainsi.
Jean-Rémy Baudeau.
C'était un chiffre très attendu. Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé hier une enveloppe de 6 milliards d'euros pour augmenter les salaires des soignants.
Oui, elle sera partagée entre hôpitaux et EHPAD publics, mais aussi en partie avec le secteur privé. Cette augmentation générale des salaires, dont on ne connaît pas encore la répartition exacte, sera effective au 1er juillet.
Europe 1, il est 7h04.
On parle beaucoup de la crise économique. Selon les prévisions du FMI, la baisse du PIB en Europe est vertigineuse. Elle pourrait atteindre moins 12,5% cette année pour la France.
Et pourtant, il y a aussi de bonnes nouvelles. Par exemple, à l'usine PSA de Rennes qui fabrique deux voitures très demandées, la Citroën C5 Aircross et la Peugeot 5008. Depuis le début de la semaine, tous les CDI ont repris le travail et une troisième équipe de nuit arrivera en renfort à la rentrée. De quoi redonner le sourire à la direction comme aux salariés. À Rennes, le reportage de François Coulon.
Personne n'avait prévu ce redémarrage sur les chapeaux de roue. La C5 Aircross et la 5008 ont fait un tabac dans les concessions dès la fin du confinement. Résultat, les 1600 CDI ont retrouvé leur poste et 400 intérimaires compléteront l'effectif début septembre. Stéphane Gélas, directeur de l'usine.
Le déconfinement, au tout début, a été une reprise extraordinaire des ventes, pour laquelle nous pensions qu'un effet d'euphorie pouvait peut-être masquer une suite un peu plus douloureuse. Là, aujourd'hui, il y a assez de robustesse dans les hypothèses de volume à produire pour pouvoir remonter ces équipes.
Mohamed est opérateur taulier depuis 33 ans.
C'est un cadeau magnifique pour la région. On a la chance que ça repart plein pot. J'étais étonné parce que je me disais que bon, les gens, vu qu'ils n'ont pas travaillé, tout ça, ils n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter des voitures. Et puis apparemment, non. Ils veulent voyager, vu qu'ils sont restés renfermés, ils ont envie d'avoir une voiture et se promener. Ça fait du bien parce que ça nous permet de remplir le frigo et de ne pas s'inquiéter pour l'avenir.
Aucun cas de Covid ici pour le moment. La prise de température volontaire à l'entrée de l'usine et les masques, lunettes et gel portent leurs fruits. Rennes, François Coulon, Europe 1.
Emmanuel Macron l'a dit hier aux partenaires sociaux qu'il recevait à l'Élysée, le chômage partiel va rester généreux. Un grand soulagement pour les entreprises. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré.
Et oui, d'ailleurs, il fallait choisir entre le maintien d'un dispositif de chômage partiel généreux mais qui coûte une fortune à la collectivité ou bien un coup de frein risquant de déclencher une avalanche de plans sociaux. Emmanuel Macron a donc tranché. Les aides de l'État vont certes diminuer mais très progressivement, pas avant le 1er octobre prochain. Et surtout, le gouvernement va mettre en place un système de chômage partiel de longue durée pouvant aller jusqu'à 2 ans et qui va en effet rester très généreux.
La France va donc conserver l'un des systèmes de chômage partiel les plus avantageux.
En fait, après le 1er octobre, nous passerons à un régime comparable à ce qui existe en Allemagne. L'entreprise aura à sa charge 40% de ce qu'elle verse aux salariés en chômage partiel, contre 15% aujourd'hui, et l'État remboursera les 60% restants. En revanche, les secteurs les plus touchés, comme l'aéronautique ou l'automobile, bénéficieront d'un traitement à part, puisque au-delà du 1er octobre, l'État et l'UNEDIC prendront toujours en charge 80% des salaires, à condition qu'il y ait un accord d'entreprise ou de branche. En clair, ça donne de la visibilité au patronat sur le chômage partiel jusqu'à la fin du quinquennat, en gros. Ça n'évitera pas les plans sociaux, mais la trentaine de milliards que va coûter cette année le chômage partiel permettra d'atténuer sérieusement l'impact social de la crise.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1, et notez-le bien, à 8h15 ce matin, Sonia Mabrouk reçoit Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui répond à vos questions. Vous les envoyez déjà sur le hashtag Europe 1.
À 3 jours du second tour des municipales, on s'intéresse à Lyon qui pourrait devenir la première ville de cette importance, dirigée par un écologiste. Grégory Doucet, à la tête d'une coalition avec la gauche, est arrivé en tête au premier tour avec 28% des voix.
Face à ce qu'il considère comme un péril vert, Yann Cuchera, le poulain de Gérard Collomb, allié aux Républicains, on appelle au monde de l'entreprise.
Nous ne souhaitons pas que cette ville tombe dans les mains des Verts et de la France insoumise. On voit bien que depuis quelques semaines, le monde de l'entreprise, ils sont inquiets que cette ville puisse être en rupture avec sa trajectoire initiale. Je ne veux pas être dans une rupture où la ville de Lyon deviendrait un laboratoire expérimental qui, selon moi, irait dans le sens du repli, de la régression et qui n'irait pas dans le sens de l'histoire de cette ville de Lyon.
Propos recueillis par Jean-Luc Boujon, en lice également pour ce second tour, Georges Kepenekian, candidat dissident d'En Marche.
Europe 1. Les Américains interdits d'entrer en Europe, les 27 en discutent face à la recrudescence des cas aux États-Unis. On va en parler dans la suite du journal de 7h. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h11, la suite du journal avec Hélène Zelani et Mathieu Bellière.
Aux États-Unis, le virus continue à gagner du terrain. Plus de 120 000 morts. New York fait désormais figure de bon élève. D'ailleurs, les terrasses et les coiffeurs ont rouvert cette semaine.
En revanche, l'épidémie fait des ravages dans le sud du pays, de la Floride au Texas, à cause d'un déconfinement trop rapide, comme l'explique le docteur Julien Cavanagh, médecin franco-américain dans un hôpital new-yorkais.
L'épidémie n'est absolument pas maîtrisée aux États-Unis. C'est une épidémie qui gagne du terrain dans les États du Sud. Aujourd'hui, on voit une augmentation très forte du nombre de cas parce que l'épidémie, elle a démarré plus tard, plus lentement. Et donc, les autorités publiques dans le sud des États-Unis sont un peu lassées, entre guillemets, et ont voulu rouvrir l'économie avant que finalement l'épidémie ait déjà démarré.
Le docteur Cavanagh au micro européen de Xavier Yvon.
Et cette situation fait peur aux Européens qui sont en train de préparer la réouverture de leurs frontières extérieures au 1er juillet.
Et la liste des pays autorisés sera bientôt dévoilée. Isabelle Horry, elle ne devrait pas inclure les États-Unis.
Et non, parce qu'ils choisissent ceux à qui ils vont ouvrir leurs portes sur la base de critères épidémiologiques. Ils ne veulent pas prendre le risque d'une nouvelle vague en Europe. Alors la discussion va peut-être prendre quelques jours encore entre les 27, mais les Européens ne s'en cachent pas. Un élément important pour eux, c'est le niveau de circulation du virus. Il faut qu'il soit à peu près équivalent à celui de l'Union Européenne, ou moindre évidemment. Or, les chiffres sont sans ambiguïté. Selon le Centre Européen de Contrôle des Maladies, ces deux dernières semaines, il y a à peu près 16 cas pour 100 000 habitants sur le vieux continent. Aux États-Unis, on est à plus de 100 cas pour 100 000 habitants. C'est très clair qu'ils ne pourront pas être sur la liste, estime un diplomate qui suit le dossier. Le secrétaire d'État américain affirme que le problème sera résolu dans les prochaines semaines. À Bruxelles, personne n'est aussi affirmatif.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Le Brésil et la Russie pourraient également être exclus de la liste dans un premier temps.
Les touristes du monde entier, précisément, viennent l'admirer. 7 millions de visiteurs chaque année. La Tour Eiffel rouvre ses portes ce matin à 10h.
Oui, mais pas tout à fait comme avant, seulement jusqu'au deuxième étage et sans ascenseur. Jean-Jacques Herry est allé promener son micro devant la Dame de Fer.
Ça reste un symbole hein, pour le peu de touristes qui viendront ici.
Venus de Montpellier, Lucas et Chloé observent les ouvriers installer les barrières au pied de la Tour Eiffel sous un soleil de plomb. Très bientôt, les touristes y feront à nouveau la queue, pas eux. Leur méfiance est d'ordre sanitaire d'abord.
Est-ce que c'est vraiment une bonne idée par les temps qui courent ?
Le corona, il n'est pas parti, il est toujours là.
Et puis il y a peut-être aussi un manque de confiance en leur capacité physique, car c'est à pied qu'il faudra monter au deuxième étage, 674 marches à gravir, les ascenseurs restant fermés jusqu'à mercredi prochain.
Bon courage pour les handicapés et les asthmatiques, mais après bon, au moins, ils prennent pas de risques en plus quoi.
Sur le Champ de Mars, on ne croise presque aucun touriste étranger. Louis Joubert, patron d'un kiosque vendant gâteaux et rafraîchissements, s'en désole.
On attend avec impatience l'ouverture de la Tour Eiffel. Les affaires sont très 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 dures, on ne fait même pas les frais du personnel.
Patrick Brancourt-Huiveau, directeur de la Tour Eiffel, s'attend à une reprise pourtant très lente. Il se base sur les réservations faites en ligne.
D'habitude, en plein mois de juillet, on est à 23 000 visiteurs. Je pense que pour le premier jour, on sera à 3 000, 4 000 visiteurs.
Et pour les rassurer, le port du masque sur le site est obligatoire. Des marquages au sol incitent à la distanciation. Et enfin, le nombre de visiteurs aux étages sera limité.
Elle rouvre donc à 10h, la Tour Eiffel.
Faudra monter à pied. Hein.
Ouais, mais ça fait du sport, c'est bien aussi. Les...
facile à dire, à 7h15. On y va tous à 10h. Allez, c'est bon, c'est un engagement. Merci Hélène Zélani. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil.